paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Bonjour à tous les auditeurs et toutes nos auditrices. Torah Box Radio depuis Jérusalem, Yerushalayim capitale. Éternel de notre RS Israël, notre pays. Nous sommes dans cette émission La Paracha nous parle. Et cette semaine, nous allons lire cette belle paracha beau, pour ne pas faire de jeu de mots, et qui va nous raconter les trois dernières plaies sur les 10 plaies d'Égypte, et aussi le départ. Et comme on le sait, la paracha nous parle. Elle nous parle même lorsque l'événement s'est passé il y a plus de 3000 ans. Donc cette semaine, le fil conducteur sera la délivrance est à nos portes. Point d'exclamation. Je suis heureux de vous retrouver. Il rave, il invite aussi au micro. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir, nous écrire si vous le souhaitez. Adresse suivante, radio@torah.box.com. Le décor est planté. Il suffit juste de reprendre un peu de force après une page de publicité. Et on se retrouve pour notre première partie de notre émission. A tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive. Halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box délivrent sur mesure pour vous.
La paracha nous parle ? Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission La Paracha nous parle. Et donc cette semaine, nous allons lire La Paracha beau. Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, le thème qui va être développé, c'est la délivrance est à nos portes. Rappelons que le Talmud le stipule dans le traité Pessahim, qu'à chaque génération, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte. Et bien étonnant que ce début de la Haggadah, que nous récitons le soir de Pessah, ou les deux soirs lorsque nous habitons en dehors d'Eretz Israël, ce récit de la sortie d'Égypte, où nous disons qu'aujourd'hui nous sommes esclaves, et demain nous serons libres. Aujourd'hui nous sommes en Égypte, et demain nous serons à Yerushalayim. Phrase encore plus étrange à prononcer pour quelqu'un qui habite déjà à Yerushalayim, qui habite en Israël. Bon, Hachem, que le phénomène de l'alia géographique se multiplie. Et donc, il faut ne pas oublier cette belle phrase du grand Massitruk Zichron Alivracha, de savoir que l'alia géographique doit surtout jumeler et ne pas faire de séparation, mais être jumelé avec l'alia, la montée spirituelle, évidemment à cela. Alors, nous parlons bien entendu d'un esclavage spirituel qui est encore plus menaçant que l'esclavage physique. Comme le disait le jour le Balatania à ses bourreaux, il disait « Vous pouvez prendre mon corps, mais ne vous donnerez jamais mon âme, qui est pourtant essentielle chez notre peuple. » Rappelons que les Pirkei Avot que nous lisons entre Pessah et Shavuot nous enseignent que She'en lecha ben chorin ela mi she'osek betalmud Torah. Il n'existe pas d'homme libre en dehors de celui qui étudie la Torah. A priori, on a plutôt tendance à penser le contraire. L'homme libre est celui qui est loin de la Torah, qui fait ce que bon lui semble, comme disent la société occidentale, article 22, chacun fait ce qu'il veut, dans une liberté absolue, à l'inverse du serviteur d'Hachem, qui est astreint à 613 commandements, il y a une multitude de recommandations auxquelles il doit se conformer. Le Midrash précise que l'ange préposé à la mère refusait d'ouvrir cette mère, prétextant un traitement de faveur de la part de Hachem. Il disait « Elo ve'elu ovde avodazara ». Les Égyptiens, ce sont des idolâtres, et les enfants d'Israël sont aussi donnés des pratiques idolâtres. Pourquoi alors ouvrir la mer devant le peuple juif pour le sauver et le refermer sur les Égyptiens, la refermer sur les Égyptiens pour les noyer? La réponse à cette question permettra de comprendre la définition de la délivrance. Hachem a répondu aux anges que les enfants d'Israël ont mérité d'être sauvés des eaux parce que, dans un futur proche, ils seraient le seul peuple à accepter la Torah. C'est ce qui leur a valu leur liberté. En effet, nous sommes passés du 49e degré d'impureté à la pureté la plus parfaite lorsque nous nous sommes présentés devant Hachem pour recevoir le trésor pour lequel le monde a été créé, la Torah. Et plusieurs versets dans la Torah nous le prouvent, je ne voudrais pas m'attarder à cela. Par contre, ça veut dire quoi servir Hachem en pensant qu'on est libre? Il faut savoir que la Torah va à contre-courant de la pensée occidentale. Que l'homme, il n'est bon, et c'est la société qui le pervertit. La Torah pense radicalement le contraire, que l'homme, il est né mauvais. Car rappelons-nous, nous l'avons dit il y a quelque temps, que l'être humain arrive dans ce monde avec déjà son yetzer hara. Et à l'arrivée à l'âge de 12 ans pour une fille, à 13 ans pour un garçon, alors le yetzer hara arrive dans sa vie. Et c'est la Torah donc qui le rend meilleur. C'est ce que dira le Talmud, que Akadosh Baruch Hu a dit « Barati yetzer hara, mais barati lo torat tavlin ». J'ai créé le yetzer hara, le mauvais penchant, mais j'ai aussi dominé, et j'ai aussi créé celui qui va être le remède, qui est la Torah. On comprend alors que la liberté de celui qui se tient à distance de la Torah et transgresse les commandements d'Hachem est illusoire. En effet, l'homme se croit libre et indépendant, mais il n'existe pas de neutralité dans le monde. Car le Talmud le dira dans les dernières pages du traité Brachot, au nom de Rabbi Yossé à Galilée, qui dit Omer, qui disait « Sadikim yisera tov shoftan, reshaim yisera ra shoftan ». Que le bon penchant conduit les sadikim et le mauvais penchant les impies. On reconnaît le guide. L'un conduit dans les endroits peu fréquentables, l'autre dans les synagogues, les maisons d'études. On déduit d'ici que celui qui fait ce qu'il veut n'est pas libre. Il est l'esclave de son yetzer hara. Comme dirait Pirkei Avot, Ezeu Gibor, Akovesh et Isro. Qui sait qui est un homme fort? C'est un homme qui sait dominer son yetzer hara, son mauvais penchant. On voit par conséquent, de façon explicite, que l'homme fort est donc l'homme libre au regard de la Torah. Et celui qui, par le biais de la Torah, est délivré de son yetzer hara. Donc voilà, cette définition de la délivrance que nous vous proposons dans cette émission en guise de décollage pour notre rendez-vous hebdomadaire. Que la liberté n'est pas de faire ce qu'on a envie, avec qui on a envie à n'importe quel moment, mais de faire ce qui est bon pour nous. Parfois les envies prennent en otage la volonté profonde de l'homme, qui est de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et le tzaddik qui accomplit la Torah. Il est toujours heureux, car il suit le code du bonheur que la Torah nous dicte. Plus on se rapproche de la Torah, plus on extirpe le Yessahara qui est ancré en nous, et plus on se rapproche du bonheur. Alors que le Racha, il est Mele'im Charatot, il est rempli de regrets, du fait qu'il n'assume pas ses responsabilités. On voit donc que la Torah, elle nous fait comprendre que l'homme libre est celui qui étudie la Torah. Midrash enseigne que Moshe Rabbeinu est allé plaider devant le Pharaon pour que les enfants d'Israël soient libérés de leur esclavage durant le Shabbat, prétextant qu'avec un jour de repos, il serait plus rentable. Et Pharaon a accepté. Moshe a alors a confié des livres qu'il avait hérités des patriarches et de leurs enfants, qui contenaient la promesse qu'Hachem libérerait un jour notre peuple de ses 210 ans d'esclavage. On voit également que c'est par le biais de cette étude, la fidélité au Shabbat, que nous avons mérité la délivrance. Et rappelez-vous ce que la Gemara dit, que si tous les Juifs du monde entier gardaient deux Shabbatot, nous recevrions directement Mashiach. Quelle relation il y a entre le Shabbat et la délivrance ? Le Shabbat qui a précédé la sortie d'Égypte, qu'on appelle aujourd'hui le Shabbat Agadol, consistait pour les bénis Israël à prendre des agneaux, destinés à être sacrifiés quelques jours plus tard, la nuit de Pessah, et à les attacher au pied du lit, alors que c'était le symbole de la divinité chez les Égyptiens. Pourtant, les maîtres des Juifs, pris de peur et d'effroi, n'ont rien dit. Mais Israël ont alors gardé ce Shabbat avec une confiance absolue, en sachant, en tout cas en pensant, que Hachem les préserverait. Le Shabbat, c'est un me'en là-bas. C'est un avant-goût du monde futur. En fonction de comment on se sent le Shabbat, on peut savoir si on est un ben olamaba. C'est-à-dire que souvent, on a une place dans le monde futur. Puisque le Shabbat, c'est le centre de la spiritualité et la distance avec le matériel, alors il a le goût du monde futur qui sera entièrement spirituel. Notre billet pour l'éternité est alors en fonction de ce que nous ressentons durant le Shabbat qui est son avant-goût. D'ailleurs, nous savons que le premier Shabbat de la création a été gardé scrupuleusement dans tous ses détails par toute l'humanité. Et vous allez me dire peut-être, mais il n'y avait que Adam et Chava. Mais ils l'ont gardé au nom de l'humanité, puisque les 600 000 âmes du peuple d'Israël étaient incluses en eux. Et puisqu'on n'a pas encore reçu le Mashiach, c'est la preuve qu'aucun Shabbat n'a été respecté par l'ensemble de la communauté. Béni Israël en Égypte, ils avaient gardé parfaitement le Shabbat avant leur délivrance. Ils ont mérité la liberté. Et on sait que ce qu'il nous reste à faire pour recevoir le Mashiach, c'est d'observer le Shabbat. Et je l'ai dit en voix off, en réunion entre amis, ou même dans ma communauté, mais je me permets de le dire aujourd'hui au micro de la radio de Torah Box, que en traversant cette période qui va faire bientôt un an avec ce Covid, et puis on voit des confinements sur confinements, des couvre-feux, des gens qui sont en bidoude parce qu'ils ont eu un contact, ou peut-être avec Shalom, ils ont été malades. Et nous, c'est devenu un fait divers. Alors que vraiment, peut-être. Non, je suis rien, je suis pas un prophète, mais je suis comme vous, fils de prophète. D'imaginer que, et d'être en tout cas sûr, de croire absolument en cette définition, que cette épidémie est là pour nous apprendre à vivre pour beaucoup plus centré sur la spiritualité. Je ne sors pas de chez moi, ou au plus un kilomètre, je fais du télétravail, donc ce qui fait que le temps que j'aurais pris dans ma voiture pour traverser le périph', si je suis en France, à Paris, ou bien dans les bus, dans les métros, dans les trains, dans les RER, ce temps-là n'est plus d'actualité, ce qui représente une heure et demie, deux heures, voire trois heures des fois pour certains, et bien que c'est ce temps-là soit mis à profit pour étudier la Torah. J'ai pas le temps, parce que je peux pas étudier la Torah dans le métro, mais maintenant que j'ai plus de métro, je travaille de chez moi. Tu peux pas trouver une autre raison pour ne pas faire ce que tu dois faire. Ça veut dire connaître le chemin que HaKadosh Baruch Hu te demande d'avoir. Et c'est en connaissant la Torah, en observant le Shabbat, en faisant partager avec tous nos frères qui sont même loin de la Torah, et c'est cette unité dans la volonté d'Hachem que nous mériterons alors la liberté. Cette Géoula, Shelema. Les deux Shabbatot successifs seront une confirmation pour prôner la beauté et l'authenticité du Shabbat. Si on ne pratique ensemble qu'un seul Shabbat, c'est insuffisant, prouvant qu'on n'a pas compris le sens. Deux Shabbatot encourageront Hachem à envoyer cette Géoula, cette délivrance, car le peuple d'Israël t'aimera alors qu'il est prêt à vivre dans le Shabbat de l'éternité. Pour mériter la vérité, chers amis, on doit donc vivre en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous que les 4/5 des bénis Israël qui sont morts dans la plaie de l'obscurité, en même temps que les Égyptiens, aspiraient à la liberté, afin de se placer en face d'eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur profit personnel, pour satisfaire leurs envies. C'est pourquoi, ne répondant pas à la condition citée dans la Torah, pour être l'Éternel votre Dieu, ils n'ont pas mérité la liberté. Le 5e qui est sorti, quant à lui, il a désiré tout autant la liberté, mais afin de servir Ribbono Shel Olam, il voulait se libérer de la tutelle égyptienne pour être en face d'Hachem et de le servir. Aujourd'hui, pour savoir si nous sortirons d'Égypte, nous devons nous demander à quelle catégorie nous appartenons, chers amis. Lorsqu'on aspire à avoir une vie de pleine de santé, une belle maison, une belle parnassa, une belle famille, c'est comme une finalité en soi, nous sommes comme ces 4/5. Par contre, si c'est pour mieux servir Hachem, alors nous mériterons la liberté. Avec l'argent, avec la santé, avec l'appartement, avec la famille, avec tout le monde. Donc la première mitzvah qui a été donnée à cette paracha, de beau, et qui va être le début véritablement des mitzvot, après les trois premières, l'introduction en entrée en Bereshit, c'est d'en beau, paracha chapitre 12, de fixer le Rosh Chodesh au sortir d'Égypte. Le début du mois, Rosh Chodesh, se fixe par la constatation de la lune lorsqu'elle se renouvelle, c'est-à-dire lorsqu'elle est pile en face du soleil, c'est-à-dire qu'elle disparaît totalement. Hachem est comparé au soleil dans le Zohar, alors que nous, les Juifs, on est comparé à la lune. En d'autres mots, nous sommes sortis de l'esclavage dans l'unique but de nous placer face à Hachem et effacer notre volonté devant sa volonté. Rappelez-vous que le 5e qui est sorti d'Égypte voyait avec leur intelligence. Les 4/5 voyaient avec leurs yeux. Et ceux-là, qui s'arrêtaient à ce que voient les yeux, se sont dit « Comment on va survivre dans le désert sans nourriture, sans eau, sans maison ? Mieux vaut rester en sécurité chez les Égyptiens. » Et ils sont morts, par manque de foi. Alors que le 5e, ils ont vu avec leur compréhension, avec ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire que la conviction qu'Hachem ne les abandonnerait jamais et qu'on pouvait toujours avoir confiance en lui, ils ont vu plus loin que leurs yeux, ils ont vu avec leur entendement qui leur faisait sentir qu'Hachem les libérait. Aujourd'hui, cette foi, elle est plus que jamais vitale, chers amis. Parce que nos sages enseignent, comme nous l'avions dit tout à l'heure, que seul 1/10 du peuple juif méritera la délivrance finale. La délivrance entre celui qui voit avec les yeux, celui qui voit avec la raison est visible à l'œil nu. Celui qui voit avec ses yeux, il a beau être riche, puissant, ce que vous voulez, il a sans cesse peur des voleurs, des missiles, de l'épidémie. Celui qui voit avec son da'at, il ne croit pas que ce qu'il voit. Il sait qu'Hachem dirige tout, qu'il est notre bouclier, alors celui-là n'a jamais peur. Et c'est avec ce regard que David Ameler, poursuivi par son fils Avshalom qui voulait le tuer, a gardé le souffle divin. C'est le roi HaKodesh qui ne peut reposer sur que celui qui a une confiance absolue en Akadosh Baruch. Voilà pour cette première partie. J'espère qu'on s'est mis dans cette position de se réveiller et de pouvoir véritablement nous retrouver après une page de publicité avec un peu de musique, je pense, pour mieux comprendre ce qui va être dit après ceci. A tout de suite.
Lo voy.
Alors bonjour à toutes et à tous, nous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez la Paracha nous parle. Chaque semaine, nous vous proposons un éclairage sur la Paracha par rapport à ce que la Paracha nous donne, différents thèmes d'actualité. Nous sommes dans cette Paracha de Bo, et le thème que nous avons parlé, que nous avons compris depuis le début, c'est la délivrance est à nos portes, point d'exclamation. Je vous rappelle que nous avons un moyen pour communiquer entre une émission et une autre, c'est l'adresse mail de la radio, radio@torah-box.com. Toutes vos remarques, toutes les critiques, les questions seront les bienvenues, elles seront lues et voire répondues si il le faut. Dans la Gada de Pessah, il y a un passage qui finit par cette phrase-là, « Ania Hachem velo malar ». Hachem, et non un ange, nous libérera d'Égypte. Nous apprend quand même, un ange n'aurait pas pu surmonter les épreuves de la 49e porte d'impureté que l'Égypte avait atteint à cette époque. C'est tout le principe que David Meller a dit dans un Tehillim, « Kol mizot echa emuna ». Toutes les mizot dépendent de la foi. Et sur ce, David Ameller, il appuie sur le caractère primordial de la Emouna pour laquelle nous devons combattre tout au long de notre vie. Et Nahmanide, Ramban, explique que par le biais des 10 plaies, HaKadosh Baruch Hu a voulu aider les Béné Israël à se débarrasser des différentes agressions que l'Égypte a voulu nous proposer. On sait que nous sommes rentrés depuis aussi deux semaines, c'est la troisième semaine aujourd'hui, période de Shuvavim, période où les maîtres de la Kabbalah, et entre autres le Ari HaKadosh, Amer, nous rapporte que c'est le meilleur moment pour réparer les fautes . Et le mot Shuvav, qui peut se décomposer en deux mots, Shav Veshav, va et vient. Et cette notion de va et vient, on la retrouve chez le pharaon, Bo El Paro, va, Lech El Paro, vas-y, viens. Et Pharaon était vraiment le plus grand des bandits. Et on voit dans, en effet dans toutes ces parachiotes, et Bo sera... la paracha culminante qu'il a maintes fois promis au cours des 10 plaies de faire teshuva devant Moshe Aaron afin qu'il prie pour lui et qu'il demande à Hachem de faire cesser cette épreuve et qu'il s'est ensuite à chaque fois rendurci. Vayir bad, vayir bed et libo, oubliant qu'il avait précédemment décidé de libérer le peuple d'Israël. Et il faut rappeler que le pharaon tremblait et se répandait en supplication lorsqu'il recevait concrètement les coups, mais qu'il restait insensible et renforçait son cœur lorsque, dans une période de répit, Moshe l'avertissait qu'Hachem allait le punir. Il restait alors imperméable face à cette peur abstraite et faisait preuve d'une grande cruauté. Raison pour laquelle la Torah place face à Pharaon Moshe Rabbeinu, qui est l'antithèse du Shovav, un homme constant, toujours en progression dans sa Yirat Shamayim, dans son amour pour Hachem. Et je pense que c'est un message pour nous aussi. Quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, tout comme Moshe Rabbeinu, notre maître, Moshe, ne s'est jamais effectivement enorgueilli ou découragé, car il savait pertinemment qu'il ne pouvait rien faire sans l'aide d'Hachem. Pour mériter, nous aussi, de voir cette Géoula tant attendue, inclue du Mashiach, il faut chasser l'instabilité de notre propre intérieur et installer en nous une volonté ferme et durable de toujours vivre avec Hachem. C'est la seule façon de prouver notre amour à Hachem, c'est de vivre selon sa volonté. Et Moshe Rabbeinu a été, et est, et il sera. Parce que c'est Rabbeinu, c'est notre maître à chaque génération, de toutes tendances confondues. Même les personnes qui ne sont pas pratiquantes, religieuses, c'est notre maître. Parce que nous avons reçu la Torah en héritage, même si on ne la pratique pas, on a des valeurs auxquelles nous sommes tout le temps attachés. Alors c'est vrai que on doit savoir que si on attend réellement le Mashiach comme une femme enceinte, qui attend le moment de l'accouchement, il serait arrivé depuis longtemps. Le problème est que on ne fait que prononcer quotidiennement dans nos prières notre attente d'être délivré par Hachem, mais en réalité, il y a des sujets que nous n'attendons plus. Alors pour laquelle... Lorsque Mashiach implore Hachem et prétexte que le moment est venu de nous délivrer, Hachem lui répond, ne sois pas pressé. Ils ne t'attendent pas encore. Si tu arrives maintenant, qui va te recevoir? Et donc, la délivrance est retardée. Chers amis, nous ne nous tromperons pas en prétendant que le Mashiach ne tente rien. Mashiach ne renonce pas. Il prétexte qu'il est impensable que personne ne l'attende. Mashiach demande à vérifier lui-même si les enfants d'Israël l'attendent. Et Hachem acquiesce à sa demande. S'il l'envoie en Israël en lui disant, Mashiach, vérifie s'ils t'attendent. S'ils t'attendent, bien. Mais dans la négative, continue à patienter. Et le Mashiach part. Il parcourt le pays. Il voit un juif assis sur une pierre, en train de pleurer. Il va à sa rencontre et il l'interroge. « Cher juif, pourquoi pleures-tu ?» Et le juif lui raconte « Ma charrue s'est cassée. Comment vais-je gagner ma vie à présent? Je n'ai plus qu'à attendre la vue du Mashiach et il me délivrera de tous mes ennuis. » Mashiach continue à parcourir le pays. Et voilà qu'il voit un juif qui a tamé tout le livre de Tehillim à côté du Kotel. Il l'écoute supplier et implorer Rebbeinu Shel Olam, maître du monde, envoie le Mashiach. Envoie le Mashiach maintenant. Enfin, c'est merveilleux. Un juif qui m'attend réellement et entièrement. Le Mashiach te dit intérieurement, allons à la rencontre de ce sadique. Et demandons-lui, mon cher juif, pourquoi attends-tu tant le Mashiach ? Et lui répond, hier, la paix à la maison s'est démolie. Il semblerait qu'uniquement le Mashiach pourra m'aider. Et ainsi, poursuit le Mashiach, il rencontre à chaque endroit des juifs qui l'attendent. Chacun a ses raisons. Celui-ci a besoin que son fils guérisse. Celui-là a besoin d'un travail. Celui-là est tombé dans les mains du fisc. Le Mashiach est devenu un bureau d'aide sociale. Mais pour le Mashiach lui-même, l'entière délivrance ne sera que pour l'honneur d'Hachem. À ce propos, personne ne l'attend. Pour cela que le nom d'Hachem, il est meurtri, sous tout bois verdoyant. Personne ne s'en soucie, c'est pour cela que le Mashiach ne vient pas. Et vous savez pourquoi le Mashiach ne vient pas ? Raconte cette histoire d'un rave qui a eu le mérite de voyager pour faire ce qu'on appelle un zikouï rabim, réveiller les âmes sensibles de notre communauté. Et avant de partir, il était au sol de sa maison, ses deux filles ont couru vers lui, une âgée de 2 ans et l'autre un peu plus grande. Et elles ont imploré leur père de ne pas partir. Et le rave a pensé un instant, et ensuite il a tendu un bonbon à la petite de 2 ans. Incroyable. Rien qu'en voyant le bonbon, elle a cessé d'attraper son papa. Elle a pris le bonbon. Elle est partie le manger dans un coin de la maison, elle l'a oublié complètement. Et le rave s'est dit, eh bien le bonbon est plus important que moi. Cependant, pour son autre fille, le bonbon n'est pas assez convaincant. Elle ne veut pas de bonbon, elle veut que son père reste. Elle lui disait avec conviction, le rave a essayé de la convaincre en lui disant, tiens, je te donne 10 shekels si je suis en Israël et 10 euros si on est en France. Et malgré tout, la fille ne voulait rien savoir. Elle voulait ni shekels, ni euros, walou. Elle voulait que son papa. Alors, le rave s'est dit, annuler son voyage, c'est pas possible. Il ne me restait plus que, dit-il, qu'à pleurer avec elle. Et c'est ce qu'il a fait. Mais à son grand étonnement, après 2 jours, lorsqu'il a appelé à la maison, sa fille a répondu en lui demandant que s'il avait déjà acheté un souvenir. On a pleuré, mais ça ne suffit pas. La conclusion à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de différence entre un petit ou un grand enfant. On peut tous, entre guillemets, les acheter avec des bonbons, de l'argent, des jouets. Également un adulte. On l'achète avec un jouet qui correspond à son âge. Ça peut être une voiture, une nouvelle cuisine, un nouveau salon, un nouvel appartement. Chacun selon ses conceptions. Et la différence entre un adulte et un enfant, c'est le prix. Ainsi, c'est la raison pour laquelle que Mashiach ne vient pas. Lorsque nous prions Hachem, en demandant de faire venir le Mashiach, nous demandons en même temps une voiture neuve, une nouvelle maison et d'autres bonbons et jouets. Ce monde n'est qu'un gros bonbon et nous l'aimons énormément. Lorsque Hachem voit que nous désirons ces bonbons dans ce monde, il dit en quelque sorte, on va vous donner un bonbon. Et dans ce cas-là, le Mashiach, il va attendre encore un peu. Et ainsi, il fait taire chacun de nous comme ça. Chacun avec un petit cadeau, un beau costume, une belle maison, une belle voiture, etc. Mais si nous nous présentons sincèrement, avec intégrité, face à Kadosh Baruch Hu, en lui disant, Rebbeinu Shel Olam, maître du monde, nous ne voulons pas de voiture, pas de maison, pas d'argent, on ne veut que toi. La situation aurait été tout autre. Pourtant que je reviens sur mon idée de tout à l'heure, personnelle, inspirée de aucun sage, donc si elle n'est pas bonne, vous savez que c'est moi. Et si elle est bonne, alors c'est que ma petite étude de Torah journalière qui a fait mûrir cette idée-là. À savoir que on ne veut pas, aujourd'hui, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas voyager. On ne peut pas partir en vacances. On ne peut pas faire de grandes fêtes. On veut que toi, Kadosh Baruch Hu. Et si c'est comme ça, alors la situation, elle elle devrait changer. Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à nous. Et nous serons, Bezrat Hashem, dans les plus brefs délais, immédiatement libérés. La Gemara dit que chaque génération qui n'a pas assisté à la reconstruction du temple, c'est comme s'il avait été détruit durant ses jours. C'est-à-dire, si le Mashiach ne vient pas aujourd'hui, c'est comme si le temple avait été détruit. On aurait dû pleurer. Mais en réalité, nous n'avons aucun sentiment de tristesse. Même le jour du Tshabé Av, le jour où on prend un deuil collectif dans toutes les synagogues du monde entier à cause de la destruction du temple qui a été détruit, un 9 Av à des années différentes, nous avons beaucoup de mal à sortir une ou deux larmes de cette source qui a été dévastée. Une fois, mon Rav m'a raconté qu'il se trouvait dans la maison d'une de ses connaissances. Exactement au moment où un de ses enfants a renversé de la colle forte sur un tapis persan. Et durant des heures, la maîtresse de maison a tenté de nettoyer la colle sans succès. Ses efforts ont été vains. La seule chose qu'il restait à faire était de jeter le tapis à la poubelle. Combien de larmes ont été versées cette nuit-là? Alors, mon Rav, il s'est dit, dommage que pour la destruction du temple et l'exil de la Shekhinah, la présence divine, nous ne pleurions pas ainsi. Si nous pleurions sur la destruction et l'exil, au moins comme nous pleurons sur ce tapis persan, il n'y a aucun doute que le Mashiach serait arrivé depuis longtemps. Voilà, on va continuer dans un instant, juste faire une petite page de publicité pour nous retrouver pour la troisième dernière partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, poser des questions, réagir, même proposer des thèmes qui pourront, dans la limite de mes capacités à pouvoir développer à travers, évidemment, les écrits de nos sages. L'adresse mail est la suivante, radio@torahaiah-box.com, je rappelle, radio@torahaiah-box.com. Et on se retrouve dans un instant, ne bougez pas, à tout de suite.
La paracha nous parle, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée Juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le Gan, c'est la sotte de Divrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishmah, mizvota, de garder les mizvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.
Paracha nous parle. Écoutez ce que la paracha a à nous dire avec le Rav Ilan Fitoussi.
Et voilà, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de notre émission. La paracha nous parle et dans cette délivrance qui est à nos portes, point d'exclamation. Chers amis, si on devait expulser un être proche de son domicile pour l'envoyer dans la rue, et à sa place, on fait entrer un âne qui ferait ses besoins dans le salon, ou dans la cuisine, et dans son lit. Qu'auriez-vous fait? Je suppose que si on avait la possibilité de poser la question directe, vous auriez tous répondu, on aurait crié, on aurait bougé, pour faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Et pourtant, depuis presque 2000 ans, on a expulsé Hachem de sa maison. Et à sa place, on a fait rentrer des ânes. On a expulsé nos enfants, parce que nous sommes responsables. Tout à l'heure, avant cette dernière pause publicitaire, nous avons rappelé que si le temps n'est pas reconstruit, c'est à cause de nous. Nous n'avons pas compris l'échec qui a amené à la destruction du second temple. Le premier temple a été construit, il a été détruit. Les Chachamim nous rapportent les différentes raisons qui ont amené à cette destruction du temple. Je rappelle, même si ce n'est pas trop le thème, mais juste pour être le plus clair possible, c'est les relations sexuelles interdites qui étaient pratiquées, ainsi que l'idolâtrie et le meurtre. Mais Akadosh Baruch Hu a permis, quelques temps après, de reconstruire le second temple. Et là encore, quelques temps après, le second temple a été détruit. Et la Gemara donne aussi une raison, mais cette fois-ci, il n'y a pas trois raisons, il n'y a pas deux motifs, il n'y a qu'une seule, un seul fait réel qui est incritiquable, c'est le fait qu'il y avait la sinatrinam, la haine gratuite. Et de la même façon que nous avons expulsé Hachem de sa maison parce que nous n'avons pas donné ce respect les uns vis-à-vis des autres, aujourd'hui notre mission, c'est de faire en sorte que si on veut, on désire complètement, ardemment, voir ce troisième Beit HaMikdash reconstruit. Et cette reconstruction sera éternelle parce que c'est Hachem lui-même qui s'en occupera, et ce que fait Hachem est éternel. Alors il faut travailler sur cette avatrinam, sur cet amour gratuit et complet. Et ils ont fait entrer sur le mont du temple, des maisons d'Avodazara. Est-ce que quelqu'un réagit? On ne ressent pas que nous avons été expulsés de la maison. On ne ressent pas que Kadosh Baruch Hu a été expulsé de sa maison. C'est pour cela que nous ne souffrons pas. La seule chose qui nous dérange le jour de Tisha B'Av, c'est à quelle heure le jeûne se termine. Est-ce qu'on peut écouter la musique? À quelle heure on peut manger la viande? Mais personne ne va demander quand se terminera enfin cet exil. Quand enfin ce temple sera reconstruit. Et ainsi, le Mashiach ne vient jamais. Il y a deux sujets qui sont précédés de douleurs. L'accouchement et le Mashiach. L'accouchement, je l'ai dit rapidement dans la phase d'introduction de notre émission d'aujourd'hui. L'accouchement, c'est chaque femme qui a mis au monde une fille ou un garçon les a ressentis. Par contre, nous subissons dans notre génération les douleurs de la venue du Mashiach. Et à ce sujet, nous devons savoir que, comme les douleurs de l'enfantement sont de moins en moins insupportables, et au dernier moment, lorsque la femme ressent qu'elle ne peut plus les supporter même une seconde, on entend un Mazal Tov. Il en sera exactement ainsi pour les douleurs de la vue du Mashiach. La situation sera de pire en pire, et au dernier moment, lorsque nous ressentirons que nous ne pouvons plus tenir, viendra soudainement la complète délivrance. Les clés de la délivrance du peuple d'Israël se trouvent entièrement dans les mains d'une seule personne. Une seule personne peut changer le cours de l'histoire, changer du tout au tout les situations de tout le peuple. Les Juifs ont énormément souffert en Égypte. Pharaon avait décrété à leur encontre des choses terribles. Le peuple d'Israël a gémi de douleur. Comme dit la paracha dans Shemot, la première paracha du second livre, que les bénis d'Israël ont gémi du sein de l'esclavage et se sont lamentés, et leur plainte est montée vers Hachem du sein de l'esclavage. Ils ne sont toujours pas délivrés. La délivrance n'a commencé que lorsqu'un seul Juif, Moshe Rabbeinu, a entrepris de lui-même le processus de la délivrance. Il ne manquait rien à Moshe Rabbeinu. Il était prince d'Égypte, fils adoptif de Pharaon, qu'il a élevé sur ses genoux, il a nourri et il a éduqué. Et malgré tout, lorsque Moshe grandit, il quitta le palais royal, il est allé à la rencontre de ses frères qui souffraient afin de voir comment il pouvait les aider et leur être utile. Or, dit le texte, en ce temps-là, Moshe a grandi. Il est allé parmi ses frères et il a été témoin de leur souffrance. Ce n'est seulement qu'après qu'a débuté la délivrance. Un point de réflexion, si vous le permettez. Que pouvait faire Moshe face à Pharaon, face à la plus grande puissance du monde, face à des millions de policiers qui pouvaient l'abattre en un instant? Pourtant, il n'a pas fait de compte, mais est allé parmi ses frères, il a été témoin de leur souffrance. Et Rashi dit que faire quoi? Être témoin de leur souffrance. Il s'est appliqué de voir avec ses yeux et avec son cœur à souffrir avec eux. Il souffrait des souffrances du peuple d'Israël. Que pouvait-il faire? Lorsqu'il voyait un juif porter une grosse pierre, il se baissait, il aidait à la porter. Lorsqu'il voyait une femme puiser de l'eau, il l'aidait. Il s'appliquait de tout son cœur. Il partageait leurs souffrances au lieu de rester dans son palais et profiter de tous les plaisirs de ce monde. Hakadosh Baruch Hu, il a vu qu'il se trouvait un homme prêt à sacrifier sa vie pour le peuple d'Israël, à donner sa vie pour eux. Alors Hachem a dit, le moment de votre délivrance est arrivé. Un seul homme peut faire débuter la délivrance. Hachem crie, il le dit dans Shacharim, Pitrili, Ahoti, Rayati, Yonati, Tamati, Sheroshi, Nimlatal, Kusotar, ici c'est Laila. Ouvre-moi ma sœur, ma compagne, ma colombe, mon ami accompli, car ma tête est couverte de rosée, les boucles de mes cheveux sont humectées par des gouttelettes de la nuit. Ouvrez le cœur, c'est le début de la délivrance. Comment? Parce qu'il a été témoin de leur souffrance. Que chacun de nous se préoccupe de son prochain. Nous avons tous un Moshe Rabbeinu en nous, puisque c'est notre maître. À chacun d'entre nous, je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit notre façon de servir Hachem, être religieux, pas religieux, d'être Ashkenaz, Sepharad, un chassid ou pas, la Torah a été donnée à Moshe Rabbeinu. Et donc, on se doit, puisque nous sommes des juifs et que nous avons un testament, si je peux m'exprimer comme ça, même si le mot n'est pas le plus adéquat, de savoir que avec cette Torah, on a des choses à faire. C'est pas uniquement des mitzvot vis-à-vis d'Hachem, faire Shabbat, manger kasher. C'est pas uniquement des mitzvot vis-à-vis de l'autre, faire la tzedaka, voir visiter des malades. C'est la combinaison des deux qui font que moi, je serai le troisième élément de faire en sorte que je puisse vivre selon le mode d'emploi que la Torah est à ma disposition pour pouvoir savoir ce que je dois faire. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc je voulais quand même terminer sur ce message. Qu'on doit avoir une foi totale. C'est un principe de notre Torah. En la délivrance. Plusieurs questions seront posées le jour de notre jugement à 120 ans. Une des principales, en nombre de trois, sur les trois, une des premières sera Sipita l'Ishua. Est-ce qu'on a espéré en la délivrance? Un des signes de celui qui croit et qui espère en la délivrance, qu'à chaque fois qu'il anticipe une chose lointaine, il dit « Hachem nous délivrera au préalable ». De même, on ne construira pas à l'étranger de solides maisons aux larges terrasses décorées et fleuries. Car celui qui pense avec justesse est confiant et espère que chaque jour que le moment arrive où Hachem rassemblera ses exilés et où nous nous lèverons et on nous montrons vers la montagne d'Hachem, le lieu de son habitation, on ne peut pas établir une belle demeure sur une terre qui n'est pas la nôtre. En tout cas, pour ceux qui pensent que tous les pays à part Israël, c'est le pays final. Et de plus, puisque nos jours passent comme l'ombre, dit David Ameller, et que nous sommes de passage dans ce monde, que la vie d'un homme dans ce monde, bonne ou mauvaise n'est rien car l'homme ignore où est le véritable bien, celui-ci étant son labeur pour satisfaire Akadosh Baruch Hu. On ne doit donc pas désirer la délivrance pour vivre à l'aise, mais seulement pour servir Hachem et pour la gloire de la présence de Dieu et d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Car la souffrance de Dieu est si grande qu'on ne peut pas l'imaginer. Voilà la finalité de nos actions, de nos prières, et c'est ça tout le rôle que nous avons en tant qu'hommes. J'ai dit il y a 2 minutes, je le répète, nous sommes tous les enfants, les élèves de Moshe Rabbeinu, donc nous savons que ce que nous devons faire. J'aime bien cette belle histoire. Car tout à l'heure, on a parlé du Gemara qui dit que si le Shabbat était observé par tous les Juifs, alors la délivrance viendra. Alors, il y avait un président de communauté qui était à cheval sur l'enseignement de nos Chachamim. Il dit, c'est comme ça, alors pourvu que on va faire le test, que Shabbat prochain, si Dieu veut. On va organiser un Shabbat plein dans la communauté. Tout le monde est invité, personne ne paye, c'est gratuit. Mais par contre, je veux que tout le monde soit là sans aucune exception. Tout le monde prend ses dispositions pour que personne ne fasse quoi que ce soit. Et il y a un monde, mais colossal, plus nombreux que Kippour. Et samedi soir arrive le moment le plus opportun pour la venue du Mashiach par l'intermédiaire de Eliyahu Hanavi. Et pas de venue du Mashiach à l'horizon. Alors le lendemain matin, on reconvoque la communauté, on dit, alors peut-être qu'il faut faire autrement. Mais quoi? On ne sait pas. Ce n'est que on essaie de voir si tout le monde a bien respecté son engagement de ne pas être Mechalel Shabbat, de profaner Shabbat. Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un d'assistance qui dit, écoutez ça, moi, en venant à la synagogue Shabbat matin, je suis passé par le centre-ville et il y avait la pharmacie de la ville qui était ouverte, c'est la seule pharmacie, qui est tenu par un juif, et il ne peut pas fermer à cause des non-juifs et qu'ils ont besoin de médicaments dans le cas nécessaire. Alors le président a dit, puisque il y a ce problème du pharmacien d'un côté, et que la Torah a dit que si tout le monde respecte le Shabbat, et que la Géoula viendrait, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme la Torah ne dit jamais quelque chose de mensonger, alors peut-être qu'il faut comprendre que le contraire, que si personne ne fait Shabbat, et donc là, le pharmacien, il n'aura pas de problème. Alors, on serait sauvé d'affaire. Et donc, il décide que Shabbat d'après, personne ne vient à la synagogue. On ferme des cadenas. Avec cadenas à la synagogue, on met des gardes pour que personne ne puisse rentrer. Le rabbin, pour montrer l'exemple, se déplace dans la ville en voiture décapotable avec musique à fond et cigares à la bouche. Et puis, on arrive le samedi soir. Moment opportun pour la venue du Mashiach par l'intermédiaire d'Eliyahu Hanavi, encore une fois, rien du tout. Alors le lendemain, on réunit encore une fois la communauté, et puis là, c'est plus du silence, c'est de la consternation, on ne sait plus quoi faire, on a essayé ça, ça ne marche pas, on a essayé l'autre contrat, ça ne marche pas, et d'un seul coup, arrive en fureur un homme tout rouge, et dit, c'est pas normal, je suis le pharmacien de la ville, et hier je suis venu parce que j'avais la scara de mon père, et la salle était fermée. Pour montrer qu'évidemment, si on attend que chacun ait son emploi du temps disponible pour pouvoir le Mashiach ne viendra jamais. Nous, on doit faire en sorte que de pouvoir l'attendre à n'importe quel moment. Toute la journée, on attend la délivrance à quelque endroit que nous soyons. Même si on a prévu des choses, bien qu'aujourd'hui, on ne prévoit pas grand-chose avec ce Covid, mais chaque chose qu'on a prévu, une bar mitzvah dans 6 mois, un mariage de nos enfants, un petit comité, si Mashiach vient aujourd'hui, on ne doit pas dire, non, après, c'est maintenant, et c'est ne pas dire plus tard. C'est maintenant, faisons en sorte de pouvoir le faire. On vous souhaite une très bonne semaine, et on se donne rendez-vous dans CHM la semaine prochaine. Kol Tov. גם הדמעות שלי אומר תודה, תודה על הכל, על כל השירים, על זכות להיות ילד שלך על כל הרגעים. תודה שקשה לי לפעמים, כי
כי רק אחרי החושך בא האור לחיים. בסוף חוזר אליך, אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזור, צועק אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. אוהב אותך אבא כלי הגדול. אתה בשתיקות, אתה הלב שלי שומע תפילות. תודה על ילדות, על משפחה, ברוך השם כולם הולכים בדרכך. תודה אם קשה לי לפעמים, כי רק אחרי החושך בא האור לחיים. בסוף חוזר אליך, אתה שומר עליי שלא אפול. אל תעזוב, צועק אליך, ממך כוחי נתת לי הכל. אוהב אותך אבא כלי הגדול. שלך על כל הרגעים. תודה שקשה לי לפעמים, כי רק אחרי החושך בא האור לחיים. Oh, בסוף חוזר אליך, אתה שומר עליי שלך.